Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le dimanche 12 octobre 2025 et nous sommes en direct depuis 15h et jusqu'à 16h30 sur Radio Galère. Vous écoutez l'émission de La Forêt des Possibles pour une édition spéciale. Spéciale parce que nous enregistrons aujourd'hui hors les murs à l'occasion du Festival des Sciences. Et nous sommes à deux pas de la mairie et nous remercions pour cette invitation chaleureusement les petites débrouillards. Pour cette émission, je suis accompagnée de Marin Maufray, fondateur de La Forêt des Possibles.
Bonsoir à toutes et tous. Bonjour à toutes et tous. D'habitude, c'est bonsoir. Mmh. Je ne m'y fais toujours pas.
Et alors, La Forêt des Possibles, c'est une association qui, à travers des émissions radio, entre autres, explore les liens entre la science, la société, la transition écologique, et qui, lors de ces émissions radio, met à l'honneur des récits de vie et des initiatives inspirantes, de sorte à inviter chacune et chacun à trouver sa juste place dans une société en pleine transition. Et alors pour cela, notre trame d'interview, et je vais introduire notre invité dans un instant, se décompose en trois grandes séquences pour remonter le fil du moi au nous, donc c'est-à-dire la singularité de la trajectoire personnelle de notre invité, qui l'a conduit à s'engager sur des projets spécifiques, donc le nous, puis du nous au tout, donc à savoir comment les projets de notre invité contribuent à impacter et transformer notre société. Et donc aujourd'hui, nous accueillons Pierre-Pascal Linck-Santini, chercheur à l'INMED, Institut de Neurobiologie de la Méditerranée, INSERM. Bonjour Pierre-Pascal.
Bonjour.
Et donc vos thèmes de recherche incluent la cognition spatiale, l'épilepsie, la fonction de l'hippocampe, le codage neuronal, les rythmes cérébraux et les dynamiques neuronales. Et alors pour situer dans les grandes lignes votre discipline, donc la neurobiologie, alors elle est définie comme l'étude du système nerveux et du fonctionnement du cerveau qui lui-même conditionne nos comportements. Et on discutait un petit peu tout à l'heure de savoir à peu près à quand remontent les premiers travaux. Et vous me disiez environ au XVIIIe siècle et voilà, qui aurait été formalisé en tant que discipline vers les années 1960. Et alors aujourd'hui, en votre compagnie, nous allons chercher à approfondir les interactions entre notre environnement et notre cerveau. Et donc savoir comment est-ce que notre environnement peut avoir des incidences sur le développement de notre cerveau. Et comment, en retour, notre cerveau s'adapte à notre environnement. Donc, merci à un peu comme en écologie, quand on cherche à comprendre les interactions entre les écosystèmes et ce qui permet leur équilibre, on va essayer de parler des équilibres du cerveau et de se demander si et comment la compréhension du cerveau peut inspirer une écologie de l'attention, de la coopération et du rythme. Donc, Pierre-Pascal, rebonjour.
Wow, rebonjour. Intense. Beaucoup de questions. On a bien été plombé là tout à l'heure aussi. Mais donc vous allez voir, il y a des choses très belles aussi.
Super.
Qui vont nous remonter.
Et bien, comme tout à l'heure, dans cette première partie, donc celle du moi, mais en fait, c'est-à-dire vous, nous allons nous intéresser à l'homme, donc c'est-à-dire à la singularité de votre trajectoire personnelle avant de parler de votre rôle de chercheur. Et donc, je vais vous demander, quelles ont été les grandes étapes de votre vie qui ont fait germer votre intérêt pour les neurosciences ?
Ah là là, c'est complexe. Alors, je ne t'avais pas dit, mais moi, je suis corse, je suis né à Ajaccio, j'ai grandi en Corse. Je t'avais dit, mais ce que je ne t'avais pas dit, c'est que ma petite enfance était en Côte d'Ivoire. Et j'étais dans une école où j'étais parmi les trois blancs et on était de toutes les couleurs en fait dans cette école-là. Et déjà, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'était cette universalité de l'homme en fait, de l'humain, et qu'on est tous un peu différents mais les mêmes. Et il y a quelque chose qui nous lie, je ne savais pas trop comment, pourquoi. Et puis après, en Corse, j'avais une tante qui était prof de bio, en fait, et elle m'avait donné des bouquins. J'adorais regarder ses livres, j'étais passionné, les animaux. Alors moi, j'étais fasciné par la nature, la biologie. En tant que Corse, on a accès à la mer, la montagne. Enfin, moi, j'étais dans le paradis là-bas, hein, c'était vraiment la chose. Mais j'étais toujours intéressé par l'homme, l'humain, qu'est-ce que c'est que les gens, etc. Et donc, je suis parti sur le continent pour faire mes études et puis j'ai été fasciné par un cours à Lumini. Je suis un Marseillais de la première heure, mais à Lumini, par un prof qui s'appelait Monsieur Niolon, qui est un sacré personnage d'ailleurs. Et ça m'a vraiment émerveillé. Ben, j'ai trouvé une beauté dans la structure du cerveau et comment est-ce que cette structure de ces neurones qui sont pure biologie, de la molécule, on arrive à l'esprit, c'est-à-dire la connaissance, la capacité de traiter les informations, etc. Mmh. Et en fait, c'est ce lien, tu parlais de ça tout à l'heure dans la vie courante, mais pour moi, le lien entre la biologie et l'esprit humain, j'ai toujours trouvé ça d'une merveille, en fait. Et c'est la beauté qui me touche le plus, moi.
La beauté, c'est un mot qui revient souvent quand on prépare l'émission. Tout à l'heure, vous nous disiez que l'émission d'avant nous avait un peu plombé. Quand on il y a ce qu'on appelle la courbe du U. Donc la courbe du U, souvent quand on prend conscience du fait que la situation est quand même critique, on descend dans le niveau de conscience et puis après souvent on remonte, souvent par le lien qu'on peut faire avec les autres et aussi par rapport à la conscience de la beauté. La beauté, quand on a préparé l'émission, vous nous parliez du rapport à la Corse, mais aussi du rapport à la musique.
Ah ouais.
Et de la question de la beauté des rythmes. Ouais. Est-ce que vous pouvez un peu nous préciser en quoi ça vous touche ?
Alors bon, déjà, la musique depuis tout petit... Ayant grandi en Afrique, j'étais quand même pas mal exposé à certains rythmes, justement. Mais en même temps, non, la beauté de la musique, pour moi, c'est quelque chose qui m'a toujours touché et qui est un peu une part à l'antipode de la science, en fait, au départ. Mais en fait, j'ai très vite découvert que les rythmes, c'était la base de notre cerveau, en fait. C'est que nos neurones ne communiquent pas de façon aléatoire ou continue. Ils se mettent d'accord pour pouvoir parler au bon moment. Et en fait, tout à l'heure, on écoutait Maceo Parker. Et ben, quand on fait du sport, par exemple, le rythme sera plutôt Maceo Parker. Et quand on réfléchit et quand on essaie de se rappeler, les rythmes, ce sera plutôt comme les cigales. Vous savez, les cigales, ça fait un bruit. Si vous mettez une électrode dans le cerveau, vous entendez exactement ce bruit-là, hein, dans l'hippocampe, la structure que j'ai étudiée. Et après, d'autres fonctions cérébrales. En fait, chaque structure a un peu son rythme. Et ça leur permet de communiquer et de faire que la même structure puisse faire plusieurs choses en même temps aussi. Donc chacun a son rythme, les uns se mettent d'accord les uns avec les autres, etc. Et il se trouve que dans l'épilepsie, qui est quelque chose sur lequel j'ai travaillé très vite, les rythmes ils sont complètement altérés. Enfin, c'était un peu un thème de ma recherche à un moment, on parlait de rythmopathie. Mmh. Et en fait, dans l'épilepsie, on a des rythmes qui sont extrêmement forts. C'est contrairement, on pourrait croire que ce serait l'inverse. En fait, on a des rythmes très très puissants, comme si on écoutait du hard rock, death metal, bien gras, et qui enlève toute l'harmonie du cerveau. En fait, c'est vraiment tout le cerveau se met d'accord à marcher dans le même ordre, et on est un peu dans la dictature de ce rythme-là par rapport à une harmonie qui serait un peu plus subtile avec plein de rythmes différents qui se mettent d'accord les uns avec les autres. Mmh. En fait, tout ça marche un petit peu de façon très aléatoire, mais ça marche très bien. C'est ça qui est très beau aussi, c'est que chacun son rythme, mais en même temps, on se met d'accord. C'est vraiment une harmonie cérébrale qui est très bien quand ça marche bien, bien sûr.
Ça me parle, cette question d'harmonie. On va vraiment rentrer ensuite, on va plonger dans l'univers du cerveau, qui est un univers absolument gigantesque, celui des neurosciences pareil. Mais peut-être aussi que pour terminer un peu cette première partie sur vous, vous nous parliez du rapport à la beauté, du rapport à la Corse, du rapport à la musique. Vous nous disiez aussi que vous aviez eu des parcours de vie qui faisaient que bah, finalement, ça vous avait particulièrement marqué la question du cerveau, parce que peut-être que vous aviez observé des personnes autour de vous où le cerveau, à un moment, ne fonctionnait plus dans cette rythmique que vous présentez là.
Ouais. Il y a plusieurs épisodes. Hein. Bon, déjà, je me rappelle d'une copine, Karine, au collège, qui s'était fait une crise d'épilepsie devant nous. Ça nous avait assez choqués. Bon, allez, c'était parce qu'elle était diabétique et qu'elle avait un problème de traitement, mais ça m'avait beaucoup marqué, ça. Et en fait, au départ, moi, je m'intéressais beaucoup à comment est-ce que le cerveau pouvait se représenter les choses. Où est-ce que je suis? Où est-ce que je vais? Donc ça, c'était ce qu'on appelle les cellules de lieu. Il se trouve que même les rats, nous, même les mouches, ont cette notion de où je suis. C'est quelque chose de fou, quand même, parce que ça extrait beaucoup d'informations. Mais il se trouve que aussi, quand j'étais en post-doctorat, quand j'étais à New York, en fait, ma mère a décédé d'une maladie neurodégénérative. Mon père aussi est décédé d'un anévrisme cérébral. Donc quand ça ne marche pas, le cerveau, c'est assez embêtant pour soi-même et pour la famille. Et je m'étais dit quand même, savoir tout ça, il faudrait peut-être qu'on puisse s'appliquer à améliorer l'autre, l'homme. Et donc il y a tout ce lien, tu vois, entre la musique, les rythmes, la beauté, l'homme, la science... Pour moi, c'est vraiment au-delà d'un travail qui me permet de manger, c'est une mission, vraiment. Enfin, c'est vraiment ça. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail, mais mon travail et ma vie, c'est très mélangé. C'est passionnant. Je me regarde.
Cette mission, on va pouvoir l'explorer un peu et puis aussi voir au cours de cet échange les interactions qu'il y a entre ce qui arrive de l'extérieur, la manière dont le cerveau ensuite l'intègre dans sa rythmique et à certains moments s'adapte et à certains moments ne s'adapte pas. Mais alors, une question peut-être un peu bête, et moi qui ne suis pas scientifique de formation, est-ce que si jamais on mettait des électrodes partout dans un cerveau, ça ressemblerait à un orchestre ?
Pas vraiment, mais oui. En fait, si on le met dans un cerveau en développement d'un embryon, enfin, ou d'un fœtus au troisième trimestre de grossesse, par exemple chez l'homme ou chez la souris, parce qu'ils naissent un petit peu plus jeunes que nous, à la première semaine de vie, on va voir qu'en fait, il y a toujours les mêmes rythmes qui sont joués. Et c'est très beau parce qu'on est unifié en fait, par ces rythmes-là dans toute l'évolution. Parce que même les poissons, en fait, vous voyez les poissons, les larves de poissons, elles bougent de façon intermittente, tac, tac, tac. Et en fait, dans le cerveau humain, on a les mêmes rythmes. Vous savez, le bébé, quand il tape comme ça, en fait, c'est pas qu'il joue au foot et qu'il se prend pour Mbappé ou quoi. C'est parce que vraiment, on a ces activités du corps parce que le cerveau a un corps, c'est très important. Les activités du corps vont informer le cerveau, dire ah ben regarde, en fait j'ai une jambe, hein, et cette jambe est là. Et ça, ça se fait à un certain rythme, ça, on a des rythmes précoces qui sont communs à beaucoup, beaucoup d'animaux, en fait. Donc nous aussi, on est des animaux, hein, faut pas oublier. Et après, ça va se développer, etc. Mais si on met des électrodes partout, oui, on va avoir des rythmes. Les rythmes alpha, bêta, gamma, tous ces des rythmes que tout le monde connaît en médecine, par exemple. Quand on ferme les yeux, on va avoir le rythme alpha, etc. On va entendre un petit peu des rythmes, on va peut-être entendre des musiques, un orchestre, oui, certainement un orchestre. Qui est le chef ?
C'est une autre question. Ça, c'est une grande question. Et alors, peut-être qu'avant de chercher qui est le chef du cerveau et de ce rythme-là, là, on est rentré sur une approche presque poétique des neurosciences et du neurodéveloppement. On pourrait peut-être donner quelques définitions, parce que quand on en parlait en préparation, vous nous disiez que c'était un univers en tant que tel, que la question des neurosciences. Alors, on peut peut-être commencer par cadrer un peu de quoi on parle, et ce dont ce sur quoi vous interrogez. Voilà, peut-être une définition simple. Qu'est-ce que c'est que la neuroscience ?
Ben, la neuroscience, c'est tout ce qui est étude du système nerveux, mais de ses relations avec l'extérieur. En fait, le système nerveux, il s'est développé parce qu'il y avait une relation avec l'extérieur. Il y a même des animaux qui se développent, lorsqu'ils sont à l'état de polype, qui sont accrochés au rocher, ils n'ont pas de système nerveux. Dès qu'ils doivent se déplacer pour pouvoir se reproduire, ils vont développer un système nerveux qui, lui, après, va disparaître parce qu'ils n'ont plus besoin. Donc, le cerveau, c'est vraiment quelque chose qui interagit avec l'environnement. Donc, les neurosciences, c'est hyper complexe, au sens où on part du comportement. L'étude du comportement, ça fait partie aussi des neurosciences. On peut parler de psychologie expérimentale. On n'est pas dans Lacan, Freud et compagnie, mais on est plus terre à terre, on va dire. Et en passant par les structures du cerveau qui servent à ça, en passant par l'anatomie du cerveau, en passant par les molécules qui font partie de cette anatomie, l'ADN, les gènes, comment est-ce qu'ils sont régulés, le développement. Je te disais la dernière fois, quand on va au grand meeting des neurosciences annuel aux États-Unis, parce que c'est le plus grand, quoique Trump est en train de plomber un peu aussi la chose, on est 40 000. 40 000 chercheurs du monde entier se réunissent avec joie et en train pour discuter du cerveau à des niveaux que même moi, je ne pourrais pas comprendre certains de mes collègues. Il y a l'intelligence artificielle, etc. etc. Est-ce que j'ai été...
Oui, merci pour cette définition. Et alors justement, vous parlez de la question de l'incidence de l'extérieur sur le cerveau. Et quand on parle d'écologie, souvent, on a une figure qui est assez fondamentale, qu'on appelle la théorie du donut. Et donc après, je vais faire le lien avec la question. La théorie du donut, c'est le fait que pour vivre dans un espace sûr, il faut à la fois ne pas dépasser les limites planétaires et en même temps ne pas être en dessous des besoins humains. Et au milieu, c'est le donut, c'est ce qu'on appelle l'espace sûr. Et alors pourquoi je parle de ça ? C'est pour introduire des questions d'un environnement qui peut être matériel et en même temps un environnement qui peut être social. Et donc quand on préparait l'émission, vous nous disiez que... l'environnement matériel, les pollutions, les pesticides ou l'environnement social, que ce soit le stress, l'isolement, les guerres, pouvaient avoir des incidences très fortes sur le développement du cerveau et, à certains égards, sur le fait qu'il ne se développe pas dans la rythmique à laquelle il est prévu.
Ouais. Bon, déjà, il faut... Voilà, c'est important ce que tu dis parce que... Bon, déjà, je pense qu'il faut bien mettre les choses en clair pour tout le monde. Notre comportement, il est basé dans le cerveau. Tout ce qu'on fait, c'est basé dans le cerveau. En tout cas, on y voit un corrélat. Je ne vais pas faire de la philosophie des sciences, etc. Mais le fait que tu aimes boire dans cette gourde, il y a quelque chose dans ton cerveau qui te le fait faire. Et donc, c'est hyper complexe. Je ne vais pas rentrer trop loin. Mais nos émotions, notre capacité à nous mettre en colère, contrôler nos émotions, être bon à l'école, pas bon à l'école, comprendre, voir les couleurs, être amoureux, tout ça, c'est dans le cerveau. Il y a une base neuronale. Et le cerveau, c'est quoi ? C'est de la matière. C'est de la biologie. C'est hérité de nos ancêtres. Au cours de l'évolution, mais c'est aussi la biologie pure. C'est-à-dire que demain, je t'enlève un bout du cerveau, tu sais, il y a des expériences très, enfin pas des expériences, mais des gens qui ont des AVC, qui peuvent plus parler, ou qui arrivent plus à reconnaître les objets. Il y a des gens qui vont plus voir le lien entre ce qu'ils vont voir et le plaisir de voir quelque chose, ou le plaisir d'écouter quelque chose. Il y a des gens qui entendent la musique comme des bruits maintenant parce qu'ils ont eu. On peut aller très très loin, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ancré dans notre matière du corps. On a la société, notre capacité à interagir avec le social. On a aussi des bases neurales, des bases dans le cerveau, on a des neurones qui servent à tout ce qui est cognition sociale, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va interagir avec l'autre et comment on va reconnaître dans l'autre la capacité d'être un être humain et de ressentir des choses comme moi. Oui. Et ça, c'est altéré dans l'autisme, par exemple, et c'est pas par hasard, c'est parce qu'il y a des problèmes neuronaux. Je reviens à ton problème, c'est qu'on se rend compte de plus en plus que non seulement il y a des bases génétiques de ces problèmes, c'est-à-dire que au cours de la reproduction, il s'est passé des petites mutations qui vont faire qu'on va avoir un problème génétique qui va produire un autiste, un enfant qui va être atteint de troubles de l'autisme, mais que l'environnement et les pesticides vont exacerber ces déficits, vont les rendre encore plus graves. Et on a une épidémie d'autisme maintenant. Il y a des gens qui pensent que c'est parce qu'on les détecte plus, mais c'est aussi parce que l'environnement, les pesticides notamment, et tous les perturbateurs endocriniens qu'on a dans les plastiques, etc. Un monsieur est en train de gonfler notre chapiteau pour pas qu'il s'effondre. C'est utile aussi, hein, que ça s'effondre pas le chapiteau.
Ouais, ça c'est un bruit qui fait pas du bien à tes oreilles.
Ça fait pas du bien à tes oreilles. Et ben voilà. Et donc notamment ton attention aussi. Tu vois, ton cerveau a besoin de concentrer son attention, et quand les signaux sont trop forts à l'extérieur, tu as du mal à faire.
Alors, moi j'ai peut-être une question de clarification. Parce que là, quand je t'entends parler du cerveau, tu regardais sa tête, etc. Et alors, est-ce que c'est une aberration ? Mais moi, j'avais entendu qu'on avait aussi des neurones dans le ventre, que c'était notre deuxième cerveau, qu'il y avait aussi le microbiote, voilà, qui façonnait aussi une partie de notre santé, de nos appétences, de nos goûts. Est-ce que le cerveau, c'est que dans la tête, du coup ? Ou ton champ d'études, jusqu'où il va ?
Écoute, au niveau des neurosciences, on vit un peu une espèce de révolution. Parce qu'à l'époque, on était là, le cerveau, c'est le système, il reçoit les informations, il produit une réponse. Vous savez, stimulus-réponse, ce qu'on nous dit à l'éducation nationale, maintenant c'est comme ça qu'il faut... En fait, c'est très vieux comme science. On se rend compte maintenant que le cerveau, en fait, il a un corps. Et que le cerveau, il n'agit que par rapport... Parce qu'il a un corps. Les yeux vont filtrer l'information et nos muscles vont filtrer l'information du cerveau. Vous voyez, oui, on a des neurones dans le ventre, alors ils ne réfléchissent pas. Mais quand vous êtes malade, ce n'est pas facile de réfléchir quand même. Je ne sais pas si vous voyez. On a quand même des millions de neurones dans les tripes, hein. Notamment des neurones à sérotonine. Alors ça vous parlera peut-être pas trop, mais si je vous dis que la sérotonine s'est impliquée dans la dépression, là vous allez commencer à avoir un lien entre... Donc les centres de la dépression sont dans le cerveau, mais on sait qu'il y a un lien avec le ventre, et il y a des bactéries qui aiment bien faire ça. Donc il y en a qui vont agir sur l'intestin, provoquer un petit peu des petits problèmes qui font qu'on va manger un peu plus quelque chose ou quelque chose d'autre. Ça va favoriser un peu un état dépressif qui va favoriser une prise alimentaire particulière qui va faire que la bactérie va se régaler. Vous voyez, on se fait un peu pirater. C'est vrai qu'on a un lien entre nos tripes, on va dire, nos neurones de l'intestin, notre cerveau, dans les deux sens. Et c'est hyper complexe, hein, et c'est pas à prendre à la légère. Il y a des gens qui travaillent dessus, qui font des découvertes fantastiques. Mmh. Je peux en parler pendant des heures encore, mais tu me dis si je le trouve.
Non, vas-y, je t'en prie.
Ouais. Et donc, il y a ça, et aussi notre cerveau a des relations avec notre système immunitaire, c'est-à-dire ce qui va notre capacité de nous défendre, de nous empêcher d'avoir un cancer ou pas. Et ça va encore plus loin, puisque pendant le développement aussi, comment notre environnement va faire. Et ça, c'est peut-être la question qu'on va pouvoir aller plus loin, parce que je te vois venir avec tes idées un petit peu révolutionnaires. C'est que comment notre cerveau est impacté par l'environnement, ça va agir sur toute notre vie après.
La révolution du vivant, hein, j'espère.
Oui, oui.
Alors moi, j'ai peut-être une question encore pour approfondir un peu ce qu'on a mis dans l'environnement. Là, tu as surtout parlé des pesticides jusqu'à présent. Là, il y a quelques jours, avec Marin, on a animé des ateliers avec des enfants. Et dans les pollutions, on a parlé des pollutions sonores, lumineuses, thermiques. Ou de comment parfois de grands épisodes de chaleur vont venir nous perturber profondément ou peut-être affecter notre santé mentale. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs environnementaux qui pèsent autant que les pesticides que visiblement tu as cités en premier ?
Là, on est vraiment... Dans quelque chose d'actualité et qui nous fait très peur à nous en neurosciences, hein, parce que j'ai parlé des pesticides qui ont un impact extrêmement violent sur le développement du fœtus et le développement du cerveau, on parle aussi des perturbateurs endocriniens, et là c'est un problème parce qu'en fait, je sais pas si vous savez, mais tous les produits qu'on bouffe toute la journée, en fait dans les plastiques etc., il y a toujours des doses minimum toxiques, etc. Et les gouvernements et toutes les organisations font donner une dose particulière. Sauf que ce qu'on ne sait pas, c'est l'interaction entre ces produits les uns avec les autres dans le cerveau. Et là, on est un peu perdu parce que vous imaginez les expériences qu'il faut faire, prendre des souris, les élever avec tel produit, parce qu'on n'a pas que des pesticides, on a des pesticides de différents types, on a des perturbateurs endocriniens de différents types et d'autres molécules qui sont pas forcément très très bonnes. Mais ce qui est important, ce qui est beau, c'est que l'humanité continue à arriver à survivre avec tout ça dans la tête.
Question des effets cocktail, effectivement, de différentes... différentes substances qui sont mises les unes avec les autres. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien ? C'est un mot qui a été lancé dans la campagne politique en 2017 et qui depuis s'est imposé dans le débat, mais peut-être qu'on ne sait pas exactement ce que c'est.
Dans le corps, on a des molécules qui circulent, qui sont un peu des messagers. C'est un peu la poste. C'est-à-dire qu'on a des structures qui vont envoyer des messages. On va utiliser une lettre. Le titre de la lettre, ça va être des hormones qui vont nous faire grandir, qui vont nous faire éliminer des neurones, qui vont les faire se multiplier. Parce que quand on naît, on développe nos neurones, hein, nos connexions du cerveau. Notre cerveau se met en place. Et pendant la mise en place du cerveau, donc pendant in utero et chez le fœtus, cette mise en place du cerveau dépend de tous ces petits signaux qui sont envoyés. Et quand on met des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire que dans les plastiques, etc., on a des molécules qui ressemblent beaucoup à certains de ces messagers, on envoie des faux messages. Et donc le cerveau, les neurones qui se disent « bon, ben moi, je devrais m'arrêter ». Vous savez, il y a des neurones qui sont instruits de mourir à un moment quand on développe. Et c'est important parce qu'on doit choisir un petit peu quel neurone va se développer ou pas. Et ben eux, ils vont avoir des croissances anormales de certains neurones, d'autres qui vont mourir trop, d'autres qui ne vont pas bien faire leur connexion, etc. Mmh. Et donc ces perturbateurs-là vont affecter la structure même du cerveau qui, je te disais avant, c'était la base de notre comportement.
Alors du coup, moi, j'ai envie de creuser là-dessus parce que tout à l'heure, tu dis que c'était complexe de savoir quel était vraiment l'impact de ces substances-là sur notre cerveau. Là, il a quand même été démontré avec les dernières études que typiquement les pesticides provoquaient notamment, en dehors des cancers, des dépressions chez les agriculteurs qui les utilisaient. Est-ce qu'il y a d'autres choses quand même qui sont observables aujourd'hui sur ce que ça modifie dans nos comportements, tu vois ?
Ah ben ça, je sais pas exactement quel comportement. Je sais que l'autisme et les troubles du neurodéveloppement sont... On est en train de penser ça, que sur les souris, en tout cas, on voit des effets massifs. Mmh. Et qui vont de la... Alors, les souris, vous savez, elles n'ont pas une structure sociale comme nous. Quand la mère, elle voit le petit dans un état comme ça, elles vont le laisser mourir. Et donc, on a des souris qui sont porteuses de certains gènes qui sont responsables de l'autisme, dont on sait, parce qu'on a identifié chez des patients. On peut les mettre chez les souris. Et globalement, elles survivent. Mais si on met en plus les pesticides dessus, c'est une catastrophe. Mmh. Donc, ça doit aggraver, en fait, certains aspects qui pourraient passer inaperçus. Les pesticides, en tant que tels, pourraient aggraver ces aspects de retard mental, de troubles du comportement et de neurodéveloppement, développement du bébé.
On a parlé de questions de l'impact de l'environnement matériel, mais il y a aussi la question de l'impact de l'environnement social, la question du stress, de l'isolement, des guerres. Il y a une guerre qui a absolument ravagé Gaza, par exemple. Qu'est-ce que ça a comme incidence sur le développement d'un cerveau que de se dire qu'en permanence, peut-être qu'on va mourir ou qu'on entend des bombes ou d'être séparé de ses proches. À un moment, tu nous parlais du fait qu'il pouvait y avoir même des crimes contre l'humanité que de pouvoir être séparé que de ses liens les uns avec les autres. Ouais. Est-ce que vous vouliez en parler ?
Déjà, pour le crime contre l'humanité, il est permanent partout. Il faut voir ici, autour de nous, Marseille. Ce que je veux dire, c'est que le cerveau, il a besoin d'apprendre. Pour pouvoir voir, on a besoin de voir. Le cerveau, il n'est pas comme ça complètement développé. Il a besoin de son extérieur, de son environnement pour apprendre à s'adapter à cet environnement. Donc on a besoin de voir, on a besoin d'entendre pour entendre, on a besoin de parler pour pouvoir parler. Vous voyez, tout ça, c'est des interactions. Le cerveau attend qu'une chose, c'est de recevoir. Et si à ce moment-là, et on a des périodes qu'on appelle critiques du développement, c'est-à-dire que si on n'agit pas à ce moment-là, c'est fini pour toujours. C'est vraiment grave, hein, ce qui peut se passer. Donc dans les 5-6 premières années de la vie de l'enfant, s'il ne voit pas, il ne verra jamais. S'il a une cataracte congénitale, ce qui est un truc qui se met devant les yeux, là. S'il n'est pas opéré avant les 6 ans, 8 ans, c'est fini, il ne pourra jamais voir précisément. Il verra des ombres, etc. Donc le cerveau passe par des périodes critiques du développement. Alors, ne pas aider ce cerveau à se développer, pour moi, c'est un crime, parce que c'est quand même une merveille de la nature. Dieu nous a donné ça. Si on y croyait ou pas, j'en sais rien, mais la nature, on peut y croire. Hein. Et ça, c'est un crime pour moi. Après, il y a des expériences qui sont faites depuis les années 60 sur les singes, par exemple, qui avaient été faites. On ne fait plus d'expériences sur les singes, je vous rassure, ou très, très peu. Mais à l'époque, on mettait des singes dans des situations d'isolement maternel. Alors, l'enfant tout seul, le bébé tout seul, je dis enfant parce que j'ai un peu d'empathie avec ce pauvre singe, on a des effets dramatiques permanents. Permanent. Le singe aura des déficits sociaux, de mémoire, d'apprentissage, de capacité de comprendre les choses et d'être permanent. On fait ça sur des souris où on va faire, on appelle ça, et c'est des modèles adversité maternelle. On est des souris, ils ne vont pas à l'école, les souris. Hein. Mais on prend des souris, on les met avec leur mère, on les met dans une cage qu'on va déranger tous les jours. Donc la mère va toujours être occupée d'aller ranger, amener, déplacer, etc., etc. Elle va s'occuper un peu moins des enfants. Elle sera là, mais elle pourra pas s'en occuper complètement. Et bien ça, les petits, quand ils vont grandir, des petits rats, des petites souris, je parle pas d'humains là, hein, on voit chez des souris, qui sont des animaux assez simples, on arrive à des impacts permanents sur leur capacité à voir les choses, à comprendre les choses, et etc. On parle de capacité cognitive. Donc, tu vois bien que ce qui se passe pendant la petite enfance, ça a des effets permanents sur le corps, sur le cerveau, et sur le corps aussi, on a des incidences de maladies cardiovasculaires, etc. Il y a énormément d'études qui sont faites sur ça. Tu parlais de la différence entre ce que les scientifiques pouvaient dire et ce que la société pouvait décider. On a un écart entre ce que nos politiques comprennent de ce qu'ils sont en train de faire sur la population humaine, parce qu'on parle d'humains, là, hein, on ne parle pas de souris. Moi, je trouve que c'est dramatique et ça serait bien que nos politiques, alors je sais qu'en Provence, on en a quelques-uns qui sont assez impliqués dans la science, etc., mais que nos politiques puissent être un peu plus au courant de ce qui se passe.
Ouais, je crois que la santé mentale des jeunes avait été à un moment donné placée comme grande cause nationale, mais voilà, qu'elle se dégrade terriblement, en particulier chez ces populations-là. Là, on est vraiment dans les aspects négatifs, hein, de comment l'environnement peut dégrader notre cerveau. Donc, pour terminer, une dernière question avant qu'on parte sur d'autres questions sur ces autres capacités, à savoir notamment celle de se réparer. Juste, est-ce qu'il y a des dérèglements qui peuvent passer inaperçus ou est-ce qu'il y a des signaux qui doivent nous alerter sur la santé de notre cerveau
Oula.
Si c'est non, c'est non.
Non,
hein.
Je veux pas te répondre parce qu'en fait, je vais avoir plein de gens qui vont s'inquiéter, qui vont m'appeler après en me disant « Ah, mais je perds la mémoire et tout, je sais pas, ça m'arrive très souvent. » Je suis embêté après pour répondre. C'est l'inverse, en fait. En fait, ce qui se passe souvent, c'est que, par exemple, la maladie d'Alzheimer, on va en parler, ça va peut-être nous amener à l'histoire de la réparation. Hein.
Je pose une dernière question.
Mais souvent, quand on se rend compte, c'est trop tard. Souvent, le cerveau, on va dire, ah, ce patient a des aspects qui rappellent la maladie d'Alzheimer, on voit ce qui se passe. On a des lésions qui sont dramatiques et qui sont atteintes à 80% de lésions. Quoi. Parce que le cerveau se répare, il est capable de compenser, etc. Alors, il y a des signes. Mais alors là, je ne suis pas neurologue en tant que médecin et je ne préférerais pas trop.
J'aimerais vous poser une question sur l'outil que j'ai dans la main, le téléphone, parce qu'on a parlé des guerres, mais là, ce n'est pas forcément une guerre, mais ça peut provoquer de l'isolement. Il y a des réseaux sociaux, mais qui peuvent avoir comme une incidence aussi de nous séparer, de nous fragmenter, à la fois par les algorithmes, mais tout simplement aussi par le fait de l'utiliser très souvent, d'être en permanence stimulé par un téléphone. Je vais faire un témoignage tout à fait personnel. Il y a un mois, j'ai cassé mon téléphone et j'ai décidé de ne pas réinstaller de réseaux sociaux dessus. Et je sens que mon énergie revient. Et donc, je voulais avoir un peu votre avis sur l'impact que ça peut avoir sur le développement du cerveau que de passer trop de temps sur un téléphone.
L'impact, il y a eu des études là-dessus. Hein. Il y a des gens qui disaient que c'était pas si grave que ça, à part que les gamins qui jouaient beaucoup aux jeux vidéo avaient des capacités de relation cerveau-doigt extrêmement rapides pour pouvoir répondre, etc. L'impact, il est très, très grave au niveau attentionnel. Vous ne vous rendez pas compte, mais votre cerveau en permanence est en train de faire attention. Ça veut dire quoi, faire attention? Ça veut dire, j'écoute pas ce qu'il me dit à côté, j'écoute ce qu'on me dit, j'essaie de comprendre ce qu'il dit. Hop, des fois, je dois faire l'inverse, je dois faire attention à ce qui se passe à côté, sinon je me prends un mur, etc. Donc, le processus de l'attention, ça développe une partie du cerveau qui s'appelle la frontale, qui est juste au-dessus de nos yeux, là, qui est fondamentale dans notre relation avec le monde et avec l'autre. Et les réseaux sociaux, avec TikTok et compagnie, ça nous met on appelle ça un empan intentionnel, c'est-à-dire un temps de concentration qui dure 3 secondes à 8 secondes. Et ça, les générations d'avant nous ne connaissaient pas parce qu'ils n'avaient pas ça. Donc leur attention était beaucoup plus orientée, beaucoup plus précise que maintenant. Et on voit beaucoup de problèmes de l'attention et ce qu'on appelle les TDAH. Et on pense que ça pourrait être pas mal causé par le téléphone. Donc avant 3 ans, on dit pas de téléphone.
Ouais, mais je crois que j'ai envie de rebondir sur une dernière chose, parce que tout à l'heure, tu avais l'air de dire qu'il faut vivre des expériences par soi-même, avec sa sensorialité, pour que le cerveau apprenne.
Ouais.
J'ai bien compris.
Surtout
ça.
Surtout quand on est petit.
Ouais. Surtout quand on est petit.
Ouais.
Et tout à l'heure, tu parlais de la concentration, mais j'ai l'impression que là, ce que tu dis sur l'impact, par exemple, du téléphone dans la vie, c'est que ça nous couperait en fait, d'une capacité à percevoir notre environnement, ouais, et continuer à apprendre, en fait. Ça peut aller jusque-là ou...
Bah oui, ouais. C'est évident. Et comme tu l'as dit, tu te sentais un peu mieux. Tu étais peut-être un peu plus centré sur toi. déjà. C'est quand même quelque chose hein, d'être toujours en dehors de soi, sur les téléphones, les réseaux sociaux, etc. Mmh. Là, on est un peu plus dans la psychologie, mais oui, c'est important, pendant le développement, etc., d'apprendre la relation à l'autre. Tout ça, ça s'apprend. C'est pas des... Mais il y a une structure. Je vais vous raconter une histoire. Un homme, Phineas Gage, un homme très très bien sur lui dans les années 1800 aux États-Unis, chef de chantier, il construisait les rails à l'époque, c'était très très développé, se prend une baramine dans l'œil et se lui traverse le lobe frontal dont je te parlais tout à l'heure. Du jour au lendemain, cet homme-là s'est transformé en Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Il était grossier, il buvait, il faisait n'importe quoi, etc. Vous voyez, il y a une base neurale, il y a des parties du cerveau qui contrôlent même ça, comment vous vous comportez avec l'autre et par rapport aux autres. Et si donc on affecte un petit peu tous ces processus-là dès le départ chez les enfants, qu'on leur empêche d'interagir avec maman, parce que l'interaction avec la mère ou le père, parce que j'ai pas de genre là, est primordial pour l'enfant, parce que ça enclenche tout un processus de développement qui est extrême. Et si on empêche ça, on va droit au mur.
Est-ce qu'il y a des motifs d'espoir? Excusez-moi, je t'ai coupé, Julie. Mais on a été sur le point d'arriver sur la question de la régénération, de la résilience. Et on parle souvent, en tant que total néophyte, j'entends souvent que le cerveau est malléable, que quand on est aveugle, et bien en fait, les parties du cerveau qui peuvent être affectées à la vue vont être réutilisées pour que nos autres sens puissent être plus marqués. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu comment ça marche?
Il y a plusieurs choses. Déjà, il y a la plasticité. On appelle ça la plasticité cérébrale. Alors, plus on est jeune, plus c'est développé. Il y a des enfants, je l'ai vu en clinique, hein, parce que j'interagis beaucoup avec les épileptologues. Des fois, on enlève la moitié du cerveau de certains enfants qui sont extrêmement atteints par des problèmes neurologiques. Et les petits se développent de façon remarquable. Il y en a un à Marseille hein, qui est reconnu dans le monde entier, hein, qui a eu un déficit neuronal. Et à 30-40 ans, ils l'ont regardé et ils se sont rendus compte qu'il avait presque plus de cerveau. Et il était quand même capable d'avoir une fonction de vie normale. On ne se serait pas rendu compte. Vous voyez donc le cerveau, il est capable de compenser énormément les choses. Maintenant, plus on est vieux, moins c'est facile. Alors, je te parlais de résilience. La mémoire, par exemple, nos mémoires, elles sont inscrites dans la physique, dans la matière de notre cerveau. Mais ce n'est pas un neurone qui va récupérer une mémoire, c'est la capacité que tous les neurones ont à communiquer entre eux. C'est comme si il y avait un message qui était partagé entre plein de neurones et qu'on se partageait tous des messages, mais qu'on ne comprenait pas le message global. Vous voyez, on vous donne une petite fraction et vous chacun répète la fraction. Mais il n'y en a pas que nous deux qui vont retenir la fraction, c'est qu'il y a 18 000 neurones qui vont se mettre à se rappeler cette fraction-là. Et quand je vais activer une partie de cette mémoire, boum, tout le monde, toute la structure du cerveau qui est impliquée, alors on parle d'hippocampe, de cortex, etc., vont raviver cette mémoire. C'est la base de l'intelligence artificielle. Hein. Ce processus-là, cette plasticité synaptique, on appelle ça tout ce qui est... C'est la base de l'intelligence artificielle qu'on utilise à l'heure actuelle. Hein. Comme quoi, le cerveau, ça nous apprend aussi à l'utiliser des astuces un peu similaires. Le problème, c'est que... Enfin, la bonne chose, c'est que si on enlève des neurones, vu que le message est distribué, on n'a pas tué le message. On a tué certains messagers, mais pas tous. Et donc, on est capable de compenser toujours... La résilience du système nerveux est très, très forte. Elle est capable de compenser très, très, très bien les choses jusqu'à un certain moment. Et j'en parlais pour Alzheimer, mais pour Parkinson aussi, on le voit. On pourrait avoir, si on avait moyen d'accéder au cerveau, des signes précurseurs de Parkinson. Et on commence à en parler de Alzheimer, par exemple. Mais le moment où on s'en rend compte, c'est déjà un peu trop tard, puisqu'on a déjà atteint la limite du système. Et je parle de système, parce que c'est des éléments qui interagissent les uns ensemble. Mmh. On a 100 milliards de neurones dans le cerveau. Ça fait quand même beaucoup d'éléments. Chaque neurone fait des dizaines de milliers de synapses avec les autres. Donc imagine la complexité du truc. On est capable de compenser jusqu'à un certain moment, et à un moment, c'est l'effondrement. Et là, on arrive en EHPAD.
Alors là, on va faire... Julie, tu voulais dire quelque chose?
Oui. Bon, j'ai des questions très pragmatiques, là, parce que moi, j'ai pas envie d'utiliser l'intelligence artificielle et j'ai très envie de prendre soin de mon cerveau. Alors, j'aimerais savoir si tu as des recommandations à mettre sur comment est-ce qu'on peut prendre soin de son cerveau ou comment est-ce qu'on peut favoriser sa plasticité. Je suis plus une petite enfant, je suis une adulte. Donc, comment est-ce que ça peut fonctionner, par exemple, pour des adultes? Eh bien, c'est super, ouais. Je vais prendre des notes.
Il y en a plein. Bon, déjà, dors. Dormez bien, c'est trop important le sommeil. Parce que pendant qu'on dort, le cerveau, il travaille énormément à se nettoyer. C'est des nouvelles découvertes. On sait qu'il y a une espèce de nettoyage du cerveau pendant qu'on dort. À reconsolider les mémoires. Parce que vous imaginez bien que vous ne pouvez pas même vous rappeler de tout ce que vous avez fait dans la journée. Ce n'est pas possible. Et puis ça ne sert à rien. Vous n'allez pas vous rappeler qu'il y avait une mouche qui volait là. Dans 15 ans, ce n'est pas important la mouche. Peut-être vous rappeler de ce qui s'est passé là. Mais... Donc, pendant le sommeil, il se passe énormément de choses. Notre cerveau reconsolide, on parle ça, organise les informations de façon très importante et ça sert à bien. Dormez. La deuxième, cultivez-vous, soyez curieux. C'est bien de cultiver cette curiosité, apprendre des nouvelles choses, de se mettre dans des conditions qu'on n'avait pas expérimentées avant, etc. Cette sollicitation du cerveau dans plein de choses, c'est pas mal. Il y a des études qui montrent que le langage, apprendre des nouvelles langues, par exemple, c'est très très bien. Ça permet pas mal de mobiliser des structures du cerveau et de faire en sorte que la santé mentale future de la personne sera meilleure.
Est-ce qu'il y a encore d'autres habitudes, d'autres rituels, d'autres modes de vie ?
Ouais, le sport. On n'en parle pas assez, mais
n'importe
je disais.
N'importe lequel ?
Alors là, je ne suis pas trop un spécialiste, mais les sports. Il faut aller à Lumini aussi. On a des collègues sur le bâtiment d'à côté qui travaillent là-dessus. Mais le cerveau a un corps, mais ça veut pas. C'est pas anodin. Quand on fait du sport, on sécrète aussi ces petits messagers là. Et certains messagers arrivent dans le cerveau et ça aide beaucoup de choses aussi, etc. Donc on a vraiment un lien. Il y a des gens qui disent ne serait-ce que une demi-heure par jour, même de marcher, hein, parce que les gens ne font plus ça. Hein. Ça aide déjà.
Hein. J'ai deux questions. On a parlé de la capacité d'adaptation du cerveau. On a une émission écologique et il y a un livre dans le monde écolo qui est assez connu qui s'appelle Le bug humain. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. D'un de vos confrères qui s'appelle Sébastien Boller. Non, ça ne vous dit rien. Alors je vais juste l'ouvrir pour le débat. C'est, et vous me direz s'il raconte n'importe quoi et ce que j'en ai retenu, parce que je l'ai lu il y a quand même quelques années. Le bug humain, c'est pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète.
Ah oui.
Et globalement, il explique que le cortex est mis sur le stratum et que le stratum est là, et que notre cerveau reptilien est là depuis bien plus longtemps et que notre stratum produit beaucoup de dopamine. Striatum produit plus de dopamine dans des cas critiques que sont le fait de manger, le fait de se reproduire, le fait de faire le moins d'efforts possible, le fait d'être subjectivement meilleur que son voisin et le fait de mieux comprendre son environnement. Et donc, dans le livre, il nous explique que toute la civilisation a toujours poussé les êtres humains qui avaient la meilleure capacité à savoir répondre à ces besoins-là, parce que c'est des besoins de base. Sauf que la période industrielle fait que maintenant, on est en opulence dans la manière de répondre à certains de ces besoins-là. Et donc, que notre cerveau, lui, n'est pas du tout capable de savoir régir cette question-là, notamment parce que notre cerveau cognitif, qui est celui qui comprend les choses, est arrivé beaucoup trop tard. Et qui n'est pas capable de pouvoir arrêter un cerveau reptilien qui serait plus automatique et qui enverrait des décisions de manière assez pulsionnelle.
Alors les souris et les rats sont capables de le faire, pourquoi on ne serait pas capable nous de le faire ? Ah oui, il a raison, hein, le cerveau c'est un gros feignant. Hein, plus il peut économiser de l'énergie, parce que ça consomme 30% de notre énergie, notre cerveau, hein, le glucose qu'on consomme, le cerveau consomme énormément, c'est une usine énergétique hein, aussi. Mais c'est intéressant aussi ça, parce que quand on n'a plus d'énergie, le cerveau il capote. Hein. Mais oui, le cerveau est feignant. Oui, on a des héritages avec des structures du cerveau qui sont comme le striatum dont tu parlais, qui existe depuis les dinosaures et même avant. Mais ils avaient quand même du cortex aussi, hein, un petit peu. Hein. Le cortex, donc toi tu me dirais, c'est un peu la structure, surtout le cortex préfrontal dont je parlais tout à l'heure, qui se développe pendant la petite enfance, mais jusqu'à l'adolescence. Hein. Il va pouvoir contrôler les choses. Par exemple, le contrôle des émotions, le contrôle de la peur, c'est quelque chose sur lequel on travaille énormément en neurosciences. Le contrôle de la peur apprise. C'est-à-dire, on vous met un son, bam, on vous met un choc, vous allez très vite apprendre que ce son, il n'est pas bon. Donc là, les souris, par exemple, quand on fait ça, les chocs ne sont pas très violents non plus. Hein, mais ce n'est pas grave. Moi, je l'ai fait sur moi. Je ne suis pas mort, mais ce n'est pas grave. Et ça fait que la souris, elle va s'arrêter, elle va bouger, elle ne va plus bouger. On dit qu'elle freeze. Oui. Mais il se trouve qu'on peut apprendre à que ben non, c'est bon, c'est fini, tu ne vas plus recevoir de choc. Et le cerveau est capable, le cortex est capable de dire « Ah non, mais c'est bon, calme-toi, l'amygdale, c'est la structure qui est impliquée dans l'apprentissage de la peur, qui apprend à contrôler. » Donc on a des structures qui font en feedback, qui sont capables de dire « Bon, c'est bon, on va se calmer, etc. » Ce que je veux dire, c'est qu'on a un cortex, que ce cortex, on doit le développer, on peut le développer, on peut nous apprendre, et ça peut peut-être nous permettre de nous contrôler. Ah oui, hein il y a des gens qui peuvent bien comprendre que fumer, c'est pas bon pour la santé, mais ils vont le faire quand même. Que la cocaïne, c'est pas bon pour la santé, ils vont le faire quand même. C'est bien qu'on a un système nerveux, on parle de plusieurs systèmes hein, dans le cerveau, qui va dire, vas-y, prends la coke, c'est important. Et donc là, arriver à contrôler ça, c'est très, très difficile. L'alcool et toutes ces drogues et tout ça, c'est très, très compliqué. mais il y a espoir quand même. Et on est en train de travailler sur les nouvelles techniques pour pouvoir apprendre à contrôler ces structures-là. Mais je pense qu'on n'est pas figé dans le néandertalien, et encore, je pense qu'ils n'étaient pas si mal que ça, nos néandertaliens. On n'est pas figé dans notre animalité, au sens où l'animalité nous a donné les clés pour pouvoir arriver à contrôler tout ça.
C'est une des critiques qui est faite sur ce livre qui serait trop déterministe et que finalement tout serait écrit d'avance. J'aurais une dernière question avant de pouvoir aussi un peu ouvrir à la salle. Tout à l'heure, vous disiez qu'on avait une capacité d'adaptation, mais qu'à un moment, quand on dépassait des limites, on parlait d'effondrement. Et alors là, forcément, le mot effondrement, quand on est lié à des questions écologiques, c'est un mot qu'on entend de temps en temps. Est-ce que vous voyez une analogie qui peut se faire entre le fonctionnement d'un cerveau, qui est en fait un écosystème qui fonctionne en interaction avec plein d'autres écosystèmes, notre corps humain et notre corps social, donc en fait la société tout entière, dans le fait que, bah oui, on a des capacités d'adaptation, on est capable d'aller chercher des nouvelles ressources à droite, à gauche, s'adapter, mais qu'à certains moments, bah en fait, quand on a dépassé la limite, bah c'est comme un ressort qui est cassé, quoi.
Alors, moi... Faut que tu m'arrêtes si je suis parti trop. Pour moi, il y a eu un homme qui m'a beaucoup inspiré, qui s'appelait Mishkin, qui parlait de la société du cerveau, qui voyait le cerveau comme une société. Alors, il y a plein d'idées, tout ça. Je trouve ça génial. Il a écrit un super livre, très très bizarre. Mais que, en fait, il faut imaginer la capacité, l'émergence, ce qui nous permet de prendre conscience de quelque chose ou de mémoriser quelque chose ou une idée. Vous savez, là, tu bois une gourde. Je l'ai jamais vu cette gourde-là. Je sais que c'est une gourde, tu vois. Notre cerveau, il est capable de faire ces trucs-là, et ça émerge de la structure du cerveau. Tu vois. Donc, tout plein de neurones discutent entre eux. Encore une fois, c'est la base de l'IA maintenant. Ils travaillent sur cette. On prend la structure du cerveau, on le fait implémenter par un ordinateur, et pouf, ça fait de l'intelligence artificielle. Et nous, on va plus loin, on est capable de comprendre ce que l'intelligence artificielle n'est pas sûre qu'elle fasse. Mais donc, les neurones du cerveau, c'est un peu une société. Les gens discutent entre eux, etc. Et en fait, par exemple, moi, je travaille sur l'hippocampe. Quand on a une mémoire qui s'active, on a certains neurones, il y a une trajectoire qui va s'établir dans cette espèce de vallée de neurones, là où chacun va se communiquer entre eux. Ça va faire comme une espèce de hola dans le stade, mais certains neurones, mais pas tous. Ça va permettre de mémoriser une chose. Et à chaque fois que je vais mémoriser cette chose-là, je vais réactiver ce petit clic de personnes. Sauf qu'en épilepsie, par exemple, à chaque fois qu'on a des atteintes, alors ça peut être des fortes crises, mais des atteintes aussi diverses et variées, pesticides et autres, mais épisodes de la vie, etc., ces neurones peuvent mourir. Et il se trouve qu'il y a certains neurones qui sont un petit peu les mini-chefs d'orchestre de cette clique-là, qui maintiennent le rythme, justement, qui permettent que, grâce à ce rythme, on va avoir cette émergence d'une petite idée ou de cette mémoire. Et ces neurones-là, quand ils meurent, il n'y en a plus qu'un qui va rester. Lui, il va essayer de prendre le boulot des autres, mais il va être tellement fort qu'à la fin, il va imposer un rythme. Et on ne va plus avoir un traitement de l'information ou une mémoire qui va émerger, mais simplement une crise d'épilepsie. Mmh. Ça va être le rythme. Il faut faire comme je dis. Et là, le cerveau va partir en crise d'épilepsie. C'est épuisant pour le cerveau. Ça dure des minutes, ça peut durer des heures. Ça peut tuer les gens. Hein. Mais après, le cerveau récupère, etc.
Est-ce qu'on est en crise d'épilepsie sociale ?
Pas encore.
Non, ma question est un peu taquine.
Mais en 36, on a été de 39-45. Je pense que ça a été une belle petite crise d'épilepsie. On en avait un petit dictateur qui décidait pour tout le monde. Et la société faisait qu'une seule chose à la fois. Et c'était pas forcément très bon pour l'humanité, plutôt mortifère. Moi, c'est un peu ma vision. Mais après, je représente pas les neuroscientifiques dans cette histoire-là. C'est moi.
Je vois qu'il y a du monde autour de la table et on est bientôt en train de finir l'émission, mais celles et ceux qui ont des questions à poser, puisque ça reste quand même un plateau radio en extérieur, on peut accueillir peut-être une ou deux questions sur les 5 minutes qui nous restent, 5-10 minutes. Est-ce que quelqu'un a envie de prendre le micro ? J'ai vu une main qui se levait. Je vais faire comme si je ne savais pas qui était cette personne. Loïc.
Ah oui, bonjour à tous. Et c'est frustrant 45 minutes parce que c'est vraiment passionnant. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question. Le lien entre le cerveau et l'environnement, moi, ça fait penser aussi au rapport à la nature. Le fait d'être en contact, d'avoir des expériences avec la nature, enfin, le vivant de manière générale. Quel est un petit peu l'état de la recherche sur ce sujet-là ? J'ai l'impression qu'un des sujets... de la crise écologique, c'est aussi qu'on est de plus en plus urbain, de plus en plus coupé du rapport à la nature, au monde naturel. Peut-être moins à Marseille, mais moi je viens de la région parisienne, c'est très net. Et donc voilà, est-ce que est-ce qu'on observe des changements dans le cerveau, dans la manière de se représenter le monde, dans, voilà. Et est-ce que ça peut être aussi une partie de la solution, ouais. Voilà.
Alors, j'ai une petite pensée pour mon collègue Christophe Bernard, qui travaille à Marseille aussi, qui travaille sur les cycles. Et les cycles multidiens, c'est-à-dire qu'en fait, ils se sont rendus compte, et c'est pas que lui, il y a beaucoup de gens avant, que notre cerveau, et par exemple chez les patients qui ont de l'épilepsie, il y a des cycles de la nature qui nous influencent. Et c'est des cycles de 28 jours. Alors, ça va parler beaucoup aux femmes, mais c'est des hommes hein, qui peuvent avoir ces cycles-là qui vont influencer la fréquence à laquelle ils vont avoir des crises. Et lui, il a creusé un peu plus. Il a vu qu'il y avait plein de cycles, en fait, plusieurs cycles de plusieurs jours, de plusieurs mois, et que ça pouvait être lié avec les astres aussi un petit peu. Alors, c'est pas de l'astrologie, hein, mais y a des choses. Il y a des cycles de 7 jours aussi, etc., etc. Donc déjà, rien que ça, la nature nous influence beaucoup. Il y a des gens qui commencent beaucoup à travailler là-dessus. Et il y a des gens qui ont travaillé sur l'impact déjà le microbiome. Hier, j'ai fait une présentation à l'épilepsie sur des expériences qui ont été faites sur les chiens. Parce que les chiens ont des crises d'épilepsie. Vous voyez, comme quoi on n'est pas les seuls à être avec ces problèmes-là. C'est dans les animaux. Hein. Les chiens ont des crises d'épilepsie. Et des gens qui regardent le microbiome, c'est-à-dire quelles bactéries ils ont dans l'intestin. Ces bactéries-là, elles influencent le cerveau, etc., etc. Donc ça, on en parlait tout à l'heure. Mais les bactéries, c'est ce qu'on mange. Hein. Ça vient de... par exemple, la mère nous les transmet aussi, ces bactéries-là. Et même quand la mère accouche, elle va donner des bactéries à l'enfant qui vont lui rester toute sa vie et qui vont influencer son développement cérébral. C'est pour ça qu'il y a eu des moments où on préfère quand même ne pas trop faire de césarienne, par exemple, parce qu'on pense qu'il y a des gens qui pensent que ça pouvait induire des changements sur l'enfant. Donc là, on parle de trucs un peu basiques. Il y a des gens qui travaillent sur travailler la terre. En fait, il y a des mycéliums, des espèces de champignons dans la terre, des bactéries dans la terre, qui en fait, on les absorbe sans faire exprès. Vous vous rendez pas compte, mais on bouffe des bactéries toute la journée. Hein, ça influence aussi notre cerveau. Et c'est pour ça que ça fait peut-être du bien de travailler la terre aussi. Et ça, nos ancêtres faisaient jusqu'à il y a 50 ans. Hein. On était tous des paysans. Hein, très, très peu d'administratifs dans les années 1810. En Lozère, par exemple.
Mais de travailler la terre sans pesticides, hein, comme tu le disais tout
Alors,
à l'heure.
Je vais vous dire un truc encore plus impressionnant. Vous savez, les maladies auto-immunes. Donc, on parle de sclérose en plaques. C'est une maladie qui, le corps humain, va tuer les neurones. Pas la neurone, mais la gaine de myéline. Bon, c'est les tuyaux qui permettent l'information de communiquer dans le cerveau, avec notre corps, etc. Les Amish, qui ont refusé de vivre dans la société dans laquelle nous vivons maintenant, qui vivent sans électricité, sans eau courante, sans frigo, etc., etc., n'ont pas de sclérose en plaques, ou très, très peu. Et que la sclérose en plaques, vous allez dans les pays sous-développés, entre guillemets, vous allez en Inde, du Sud, vous allez dans les pays en Afrique, etc., il n'y a pas de sclérose en plaques, ou très, très peu. Je comprends, on pensait que c'était une maladie des Blancs. Mais en fait, non. C'est ceux qui viennent du Vietnam, qui se retrouvent en France, vont développer aussi des sclérose en plaques. Et donc, on se dit, ah, mais qu'est-ce que c'est ? J'ai un collègue qui travaillait sur les bactéries et qui disait, mais en fait, si je irradie mes souris de bactéries, elles ont beaucoup plus de chances de développer la sclérose en plaques que d'autres. Donc, en fait, tout ce qu'on a, ce qu'on mange, les cochonneries qu'on peut manger, le mauvais fromage, qui n'est pas très bio, enfin, pas très plutôt selon les normes européennes, etc., peut-être est-ce que ça ne sera pas si mauvais que ça pour le sang.
Je suis désolé Julie, on va faire des questions pour le public parce qu'on pourrait poser encore des questions pendant 1000 ans, c'est fascinant de vous écouter. On a déjà dépassé de 5 minutes le temps qui nous est imparti. On va peut-être encore en prendre une ou deux. Et puis après j'imagine que si vous avez d'autres questions, on pourra échanger à la suite de cette émission. On vous écoute.
Alors on a beaucoup parlé du coup de... Enfin là on était sur l'alimentation, moi j'ai une question sur la consommation du sucre. On a parlé des écrans dans la société, on a parlé des perturbateurs endocriniens. Est-ce qu'aujourd'hui, cette surconsommation, on va l'appeler comme ça, à un niveau phylogénétique, clairement, on est dans de l'overdose constante. Est-ce qu'il y a des choses qui nous montrent que ça pourrait perturber aussi le fonctionnement du cerveau ?
Ah oui, complètement. Oui. Bah, le sucre, c'est une catastrophe. Hein. Bah, faut voir que nos ancêtres, pendant des millions d'années, ils n'ont jamais mangé autant de sucre. C'était pas si facile que ça d'accéder au sucre toute la journée. Et ils mangeaient pas toute la journée. Ils ne mangeaient pas quand ils avaient envie, on mangeait quand on trouvait de l'alimentation, etc. En fait, ça, l'air de rien, c'est implémenté dans notre corps aussi, de faire des réserves, de se mettre en jeûne, etc. Hier, j'étais à une session sur l'épilepsie, sur des travaux qui sont faits à Montpellier, où ils regardaient le jeûne, l'impact du jeûne sur l'épilepsie. Ils se sont rendus compte que de faire un jeûne de 18h ou 16h, ça permettait à certains patients, dans certains cas d'épilepsie, je ne vais pas trop... faire vendre du rêve, mais dans certains cas d'épilepsie, ça permettait à mieux contrôler l'épilepsie que d'autres. Donc, ce qu'on mange, la façon dont on se nourrit, etc., ça agit sur notre cerveau. Notre cerveau, il n'est pas isolé, hein. On est vraiment... Le cerveau a un corps et le corps a un cerveau, etc. Et, ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu.
Je crois qu'il y avait des études qui avaient été menées dans des écoles, voilà, une expérimentation d'arrêter de donner du sucre raffiné à des enfants. Ils ont constaté qu'il y avait beaucoup moins de violence, notamment dans les cours de récréation. Donc, il y avait une baisse de l'agressivité. Ouais.
Je propose une dernière question à la salle et ensuite on va clôturer. Est-ce que quelqu'un... Non, et ben c'est la fin de notre émission. Merci beaucoup, Pierre-Pascal Lanc-Santini. Lanc, pardon. c'est mon accent du Nord.
Ben, ça vient du Nord, hein. Ça vient d'Alsace.
Et ben, je n'ai plus de réponse, plus d'excuses. Vous êtes chercheur à l'Institut de neurobiologie de la Méditerranée. J'espère que là-dessus, je ne me suis pas trompé.
Non, ça va bien.
Ok, tout va bien. Pour celles et ceux qui ont pris l'émission en cours de route, vous étiez en train d'écouter l'émission de la Forêt des Possibles. Et donc, si ça vous intéresse, vous pourrez la retrouver en podcast sur Radio Galère qui nous enregistre aujourd'hui. Et on remercie tout particulièrement Sidi qui est à la régie depuis je ne sais pas quelle heure, mais bien avant moi, pour installer ce plateau radio avec Christophe, je ne sais pas où est Christophe, mais qui s'est aussi occupé de l'installation technique de cet espace-là. On remercie les petits débrouillards qui nous ont invités pour la fête de la science. Et on remercie tous les deux. Merci Julie. Merci Pierre-Pascal. Et donc, pour celles et ceux qui voudront l'écouter, c'est sur Spotify, La Forêt des Possibles. Bonne fin de journée, belle fête de la science et cultivons nos intelligences avec un S. Bonne soirée.
J'ai bien aimé le nom, mais moi mon...